Le titre du film, Seconde vie. Avec Sassia et Fabrice, et Jean-Marc aux manettes, sur une idée et un texte de Jacques porté par tous. Quelques anecdotes autour du 60e anniversaire de la communauté Emmaüs du Plessis-Trévise, pour ce 14 septembre 2014. Le sujet pour commencer. Mais le sujet, c'est nous toutes et nous tous, fédérés pour cette rétrospective et cette thématique, un présent pour le futur. Une seconde vie, donc, en attendant les suivantes. Mais quelle belle idée que cette idée de seconde vie. Et une bonne nouvelle, non pas celle-ci en tant que telle, mais le fait qu'il y ait quelque chose à dire, avec ces quelques histoires, un message à porter autour de la communauté Emmaüs du Plessis-Trévise. Autour et alentour. Car l'hiver 54, et après l'hiver 54, c'est déjà l'histoire. L'histoire avec un grand H. Une histoire, des histoires. Un vécu, des vécus qui méritent d'être revisités. Alors, suivez les guides, Sassia et Fabrice. En termes d'alternative à propos de ces vies, c'est bien donc d'en parler. Oui, d'en parler ou pas d'ailleurs, car la réserve existe, ou bien peut exister. Nous le verrons à l'occasion. Et puis, une première vie implique par ailleurs une deuxième, voire une troisième vie, etc. Même et surtout si la notion de seconde vie ferme la perspective. Nous conserverons pourtant cette terminologie, car dans seconde vie, il existe aussi la notion de seconder. Seconder avec cette connotation de solidarité qui y est indéfectiblement attachée. Tout Emmaüs en quelque sorte, et tout l'abbé Pierre. Et puis, subsidiairement, comment la relater cette vie? Et comment en parler de ces vies, de toutes ces vies? Des vies toutes originales et uniques dans leur diversité. Seconde vie. Voici donc quelques anecdotes prises pas tout à fait au hasard et qui ne demandent qu'à s'enrichir d'ailleurs. Elles ont été récoltées autour du 60e anniversaire de la communauté Emmaüs du Plessis-Trévise et ce n'est pas fini, tant nous avons, avec bien d'autres, tellement de choses à dire. Ces quelques anecdotes ne prétendent bien sûr pas à l'exhaustivité, loin s'en faut. Un beau projet pourtant que cette idée de seconde vie et ces quelques histoires autour donc de notre communauté Emmaüs du Plessis-Trévise à partir de l'hiver 54 qui se prolonge et qui se prolongeront bien après l'hiver 54. Un vécu qui mérite assurément d'être revisité. Alors, suivez les guides. La parole est à Fabrice.
En termes d'alternative et à propos de ces vies, c'est donc d'en parler, ou pas. Et puis, subsidiairement, comment? Comment en parler? Quand dire? Et pour le dire, à qui? Et pour qui? Et pourquoi d'ailleurs? Comparaison n'est pas raison. Et chaque situation vécue et relatée s'avère sans doute incomparable.
Comme d'ailleurs imaginé. Comme d'ailleurs imaginer avec nos yeux d'aujourd'hui des événements qui se sont produits il y a 60 ans, y compris dans ce même environnement géographique de notre communauté qui a décidément bien évolué, sinon fondamentalement changé.
Pourtant, et comme cela n'exclut pas bien au contraire le devoir de mémoire, nous pouvons réaffirmer haut et fort avec Sassia, avec Fabrice, avec Jean-Marc et tant d'autres, que non, je n'ai pas oublié. Car les vies, elles, ont bien changé. En bien, quelquefois, souvent, mais cela est une autre histoire.
Car s'il est déjà un fait à considérer, c'est bien cette partition, plus ou moins volontaire, et plutôt moins que plus, que l'on peut constater dans l'évocation ou non du passé. De ce passé. Ce passé entre les personnes qui ont vécu, disons, pour faire court, la grande précarité, la misère de l'époque, à partir des années 54 et les suivantes, et leur façon quelques années après, d'en parler ou de ne point en parler. D'aucune en parle bien volontiers. Elles sont même à l'occasion prolixes. À ce sujet, sur ces sujets, alors que d'autres sont dans le déni, arc-boutés, dans une sorte de négation, de mutisme, un silence non négociable. Et explicitement, ils, elles, nous disent avoir fait un trait dessus. Définitivement. Mutisme, mutité.
Entre une évocation volubile, émue et donc émouvante, sinon poignante, avec ce caractère éminemment bouleversant qui s'y attache, il convient d'observer que la relation qui en est faite est et reste incroyablement positive. Et malgré l'émotion palpable, à fleur de peau, à tout moment. Ce caractère s'avère d'autant plus contrasté qu'il existe aussi, nous l'avons déjà évoqué, un déni quasi absolu. Il en constitue le corollaire. Et la marge entre les deux, qui est et reste immense, insondable, incommensurable. Même si l'on en comprend bien les raisons, alléguées ou non, le mutisme et l'oubli, c'est bien la tentation, à moins que ce ne soit l'évocation le plus souvent, aussi bavarde que passionnée, passionnelle même. Et certains, certaines, deviennent alors littéralement intarissables.
Voilà l'alternative avec toute la gradation de découverte, peu ou prou d'un jardin plus ou moins secret, donc, et un couvercle des souvenirs qui restent donc fermés à double, triple tour, cadenassés ou qui encore s'entrebâillent et se libèrent. La condition humaine, bavarde ou secrète, ou pour le moins discrète sur ces choses de la vie, ces choses imposées, mal vécues, fréquemment et souvent depuis le premier âge.
Et puis revient encore ce sentiment d'une grande injustice, intolérable injustice. Et l'on ne peut pas ne pas penser en cette occurrence à « la vie est un long fleuve tranquille ». Certes non. Les causes de cette parole ou absence de parole, de toute façon, sont diverses. Chacun, chacune, reste véritablement légitime. Et ne nous sommes pas bien sûrs ici dans le jugement. Ainsi s'écrit l'histoire.
Mais c'est bien dans cette seconde composante avec la relation de ces premières vies que s'ancrent et se marquent ces préalables à ces secondes vies. Seconde vie éventuelle, autre vie, vie nouvelle, seconde, troisième, multiple, prévisible ou non. Ce qui nous intéresse ici, ce sont bien les personnes et leur vie. Et ici, les compagnes et compagnons à qui la communauté donne ou redonne une dignité, c'est ce que nous allons raconter avec ces évocations parfois prégnantes, souvent violentes dans leur formulation. C'est bien que substrat qui va nous permettre de nous souvenir ensemble et nous permettre de reconstruire une aventure décidément unique dans son originalité. La nôtre, bien sûr, c'est du Plessis, comparable à bien d'autres, mais aussi incomparable. Le déterminisme reste fort avec un enracinement pareil.
Toujours est-il que l'histoire de cette histoire a commencé curieusement comme toujours les histoires. J'étais en train de discuter ce samedi matin avec Thierry, le responsable de la communauté, lorsque Sacia, une cliente habituée de la communauté et que je connaissais de vue depuis des années, frappa à la porte du bureau. Son objectif ? C'était de prendre spontanément la défense d'un compagnon qu'une cliente avait accusé de lui avoir mal parlé. Sacia, qui avait été témoin de la scène, venait donc témoigner pour prendre le parti, la défense éventuelle, du dit compagnon, tout en ne sachant pas, d'ailleurs, à ce moment, si sa démarche serait utile ou même nécessaire. Car, de fil en aiguille, à l'impact de la mercerie à la communauté Emmaüs du Plessis-Trévise. Sacia évoqua son passé à la Cité de la Joie, son passé qui, dans un contexte de précarité à peu près totale, s'avérait aussi plein de bons moments, de grands moments. Sacia, né en 1964, avait à l'époque de ses premiers souvenirs 4 ans, et la communauté avait déjà 10 ans d'existence. Comme nous avions comme ami, j'insiste sur la majuscule, Fabrice, infidèle parmi les fidèles de la communauté et de surcroît bénévole au grand cœur. Nous eûmes ainsi l'idée de retrouver ses mémoires afin de les relater, dire ce qui s'était passé avant l'oubli définitif. Tiens, c'est toi Fabrice qui m'a encore reparlé d'Adri aujourd'hui. Pour mémoire, si je peux dire, Fabrice est devenu un ami, c'est-à-dire un bénévole de la communauté depuis sa retraite. Un proche, mais vraiment un très proche. D'ailleurs, vous venez de l'entendre. Et Sassia est en train de prendre le même chemin. C'est ainsi que l'ami Fabrice déclare payer sa dette à la communauté. Il en paye le capital, nous dit-il, mais aussi beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, énormément. Car quelle interaction féconde, incessante, et quel regard veillant et ô combien bienveillant porté sur notre communauté, celle de l'époque et celle d'aujourd'hui, bien sûr. Et puis quel sens du don, de la disponibilité, du dévouement. Pas si courant l'altruisme, et pas des mieux partagés. C'est ainsi que ce 6 janvier 2014, nous nous mîmes autour d'une table avec Sassia et Fabrice, afin de rappeler divers souvenirs. On s'est revus depuis, souvent, depuis le démarrage, et ce n'est pas fini. Une dynamique est lancée, elle se poursuivra bien au-delà de ce 60e anniversaire, avec le souci de coller à cette réalité vécue et si difficile à transmettre. Et nous sommes bien décidés à enrichir ce premier jet de nos investigations à venir, du vécu. Il y en aura donc bien d'autres de ces anecdotes, et les témoignages seront élargis, des photos retrouvées, des histoires cherchées, afin de parfaire la mémoire. Mais commençons par vos souvenirs, les vôtres, Sassia et Fabrice. Deux situations très comparables, même à 10 ans d'écart. Fabrice est né en 1954, avec des manques évidents et bien des carences pour l'un et pour l'autre. À toi, Sassia.
Ce que je veux dire, c'est que la communauté, notamment constituée avec quelques rares commerces des environs à l'époque, est un des pôles d'attraction fort, très fort. Et on y était bien. C'est même un des rares endroits où on était bien reçu. Certains des habitants de la Cité de la Joie venaient, et c'était un réel progrès. De Noisy-le-Grand, où c'était pire, tant il existe bien une gradation dans l'exclusion et le sentiment d'exclusion.
Ce n'était pourtant pas le luxe à la Cité de la Joie. Elle permettait, néanmoins, dans ce contexte d'après-guerre, de reloger ceux qui n'avaient rien. Et même si nous manquions pas de tout, nous ne disposions pas de grand-chose. Ce n'était pourtant pas le travail qui manquait. À l'époque, puis le flux migratoire était probablement incomparable avec ceux d'aujourd'hui. Mais l'exclusion venait surtout et tout particulièrement de l'état de santé des résidents, de cette incapacité qui était la leur de trouver un boulot, compte tenu de leur état. Ah, la santé!
C'était là tout le domaine des séquelles, directes et indirectes de la guerre, physiques ou psychologiques, avec donc un état sanitaire des plus préoccupants et ses conséquences ici palpables. Mutilés, diminués, handicapés, ou plus ou moins. L'abbé acceptait tout le monde, l'accueil inconditionnel déjà. Tout et chacun était accueilli du mieux possible. Et toute la misère du monde convergeait vers la Cité de la Joie déjà. Mais ici, on allait bientôt avoir un toit en dur, et de l'eau courante, et de la lumière.
Un bref retour en arrière avec cet hiver 54 et cette première communauté de femmes, la Villa Sans-Gêne, que les voisins appelaient le château. Et lorsque l'on allait y acheter quelque chose, on disait par antiphrase qu'on allait chez Dior.
Car tout cela avait commencé naguère par un premier camp avec les tantes de Notre-Dame. Les frères de Fabrice, disparus depuis, étaient nés dans ces camps. Les premières maisons en dur constituèrent alors déjà une évolution notable. Et puis les maisons évoluèrent avec le temps, soit en rez-de-chaussée, soit des maisonnettes à étages pour les familles plus nombreuses. Les chemins étaient de terre et les maisons s'appelaient les épis. Il n'y avait pas de nom sur les rues et les logements étaient identifiés par des numéros.
Sassia vécut au 134, puis au 234 et au fin au 128 avec un étage. L'attribution était faite en fonction de l'extension de la famille. Fabrice, 10 ans avant, vécut au 126. Il fallait adapter, rebâtir, reconstruire, étendre, élargir, et chacun savait que ce qu'il avait à faire. Sans tomber dans l'angélisme, le mot de solidarité avait un vrai sens. Les loyers de surcroît, s'ils étaient certes modiques, n'excluaient pas dans ces conditions les impayés.
Je me souviens de cette histoire d'un loyer de 5 francs par mois, et c'était encore trop. Tant et si bien que le père, veuve, annonçait un retard de 5 ans de loyer au compteur. Lorsqu'il y avait quelques ressources, il s'efforçait de rembourser l'abbé, en précisant bien, pour rassurer son petit monde, que de toute façon l'abbé n'allait pas les foutre dehors. On avait un toit et on payait nos dettes, quand on le pouvait. Mais dès que c'était possible, on remboursait. Cela prenait souvent du temps, mais c'était une obligation morale aussi. Et puis, il fallait aussi aller chercher le charbon pour se chauffer. Il n'était pas gratuit non plus. Je me souviens de l'arrivée de l'électricité vers 1958, du 110 volts qui permettait juste d'alimenter quelques maigres ampoules. Et cela coûtait cher aussi. Les bougies du passé n'étaient jamais loin, tout comme la lampe à pétrole des débuts.
À la communauté, on faisait la soupe, et l'abbé Pierre était là pour la distribuer le cas échéant, ou Madame Renard. On peut affirmer que jamais on nous a refusé un repas, et pour le vêtement c'était pareil. Cela complétait bien les bons de vêtements et les bons d'alimentation distribués par l'ancien maire Monsieur Rossillon. Ah. Certes, on pouvait se demander parfois souvent où était l'élégance. Mais on avait moins froid. Et si sans manquer de tout, on n'avait pas grand-chose, on était un peu nourri et on avait parfois un peu moins faim. Et puis, on se sentait en famille à la communauté. Quant à Noël, les jouets donnés par la communauté étaient souvent les seuls possédés par les enfants de la Cité de la Loi. Des flux sans superflu, car il est un mot que nous ignorions. C'était bien le mot superflu. Cette criante actualité se prolongeait d'ailleurs un peu trop à notre goût. De quoi ignorer l'orthographe et surtout celle du mot consommation dans cette société. Un mot qui pour nous n'avait pas de sens. Alors un M ou deux M, pensez si on s'en foutait.
1958, c'était aussi la télé qu'on allait voir dans le jardin du boulanger. Monsieur Chouquet, un bien brave homme, comme dirait Monique. Un bien brave homme qui n'hésitait pas à ouvrir le volet du jardin pour permettre aux beaux jours, aux gamines et aux gamins que nous étions de regarder un peu la télé. Rarissime loisir de ces temps. Et puis, par-ci, par-là, un petit bonbon et le crédit pour le pain. Le Mistral gagnant de l'époque, chanté bien plus tard par Renaud, constituait une attraction et le boulanger n'hésitait pas à influencer le hasard pour conseiller tel ou tel paquet qui permettait, pour le même prix, de satisfaire les 4 ou 5 frères et sœurs. Autre temps, certes, mais ceux qu'on l'a vécu le conservent dans leur gêne.
Rien de rien. C'était le temps où on n'avait rien, où on s'amusait d'un rien. Mais nous étions malgré tout dans le partage. Et puis il y avait un code, des codes de ceux que l'on ne saurait appeler autrement que d'honneur. Car notre précarité n'excluait pas la fierté. Je me souviens du jour où j'ai vu la première déesse à la cité, d'occasion sans doute la déesse, et à la fiabilité perfectible. Mais elle en jetait, tout comme la Simca d'ailleurs. Nous et les autres, on ne dira jamais assez combien il y a et combien il reste vraiment une partition, une sacrée fracture entre nous et les autres.
Le dedans et le dehors, une partition entre ceux qui ont connu et vécu cet hiver 54 et les hivers suivants à la Cité de la Joie et les autres avec quelque chose du domaine de l'indice, de l'inconnaissable par essence, quasi impossible à expliquer ou à transmettre avec nos pauvres mots. C'est bien le temps du don, le don sans idée contrepartie, le don sans retour, sans arrière-pensée, et c'était bien là la norme d'ici. Une norme incontestable et qui constitue aujourd'hui encore une richesse extraordinaire pour celles et ceux qui l'ont vécu et qui l'ont connu, fût-ce certes à leur corps défendant. Et cela, c'est bien l'abbé qui nous l'a appris, montré comme le chemin.
Parcours difficile pourtant, et le mot est faible, certes, mais ce parcours, on l'a bien vécu, bien, si je peux dire. Un vécu qui parvient néanmoins, avec le temps, à rester pourtant positif. Il est vrai que nous sommes toujours là pour le dire. La vie d'avant, la vie d'après, cette vie était rude, dure, surtout quand nous devions nous comparer aux autres, à l'école notamment.
Voilà qui n'était certes pas facile, mais quelques niaques, elle nous a donné cette garce de vie, à nous qui avons survécu, car il faut bien s'imaginer la vie à l'école, nous, que l'on montrait du doigt et que l'on n'hésitait pas à regarder d'un air suspicieux lorsque les premiers poux arrivaient. Et ce n'était pas rare, les poux et les pouilleux.
Dans ces conditions d'une précarité totale, c'était bien, par ailleurs, une belle performance que celle d'avoir le certif. Et il fallait une belle dose d'intelligence pour le décrocher. Voilà qui vous structure un homme ou une femme quand elle ne vous détruit pas. Car là est le deuxième versant. Et la pente descendante peut s'avérer très raide et très rapide vers la dégringolade. Et nous, manifestement, on a gagné, avec des acquis bien réels. Nous, certes, mais les autres, tous les autres.
Moi, je me souviens des propos de l'abbé. Moi, je suis près de Dieu. Tu finiras par trouver ton chemin, comme moi j'ai trouvé le mien. Et il a eu raison.
N'oublions pas à ce moment ce qui fut probablement un des traits de génie de l'abbé Pierre, parmi bien d'autres, celui de construire aussi, avec Emmaüs, un mouvement laïque.
Mais je voudrais parler aussi des vacances, un mot qui semblait n'appartenir qu'aux autres. La notion même de vacances constituait pour nous un domaine mythique, quelque chose de domaine du rêve, mais nous qui n'avions pas ou guère le temps de rêver. Le quotidien d'ailleurs se changeait à tout moment, de nous rappeler à l'ordre et de quelle façon. Et des vacances pourtant on en a eu, ainsi ce fut notamment le camp de l'amitié en Belgique, ou alors des séjours dans les familles d'accueil, avec bien ou une participation toute symbolique. Toutes les nationalités étaient représentées, il y avait en train ou en car l'aventure, on vous dit. En fait, nous n'avions rien, et pour nous, la communauté, c'était tout à commencer par le goûter des enfants, et même le catéchisme, moi qui suis d'ailleurs d'une autre religion. Mais le caté, c'était tout, enfants confondus, une récréation. On avait même un bout de pain et un morceau de sucre. Le mot solidarité, c'était là. On le connaissait bien, on le vivait intensément parfois, car on ne jetait jamais rien, que ce soit les vêtements ou la nourriture. Et il y avait paradoxalement toujours quelque chose de disponible pour celui qui avait moins que soi. On allait aussi chez le dentiste, soit accueilli, soit au dispensaire à Paris, où on y allait en minibus. Au plan médical, on se souvient même de l'infirmière Bernadette de Viron, mais aussi de l'autre dispensaire à proximité. Il était à l'angle de la rue Aubry et de la rue Gonzalve, un lieu de rencontre et de convivialité, où les bébés étaient vaccinés. Et ça ne coûtait rien, juste un merci. C'est là aussi que le premier vaccin contre le tétanos fut effectué, un dispensaire décidément très novateur et où l'on pouvait aussi, en cas de blessure, se faire soigner.
Nous, on était des acharnés à vivre et on l'est resté, avec nos forces et nos faiblesses, et nos parents décédés jeunes. C'est bien pour cela que nous voulons en parler, un devoir de mémoire, on vous dit.
Et peut-être aussi et surtout, ne jamais oublier ce vécu. Ce vécu qui pourra servir le cas échéant à d'autres personnes, en leur permettant de remonter la pente. Car tout cela est et reste vrai et reste dur en 2014. Un vrai devoir de mémoire avec l'espoir pourtant en ligne de mire.
Un grand merci Sassia, un grand merci Fabrice, un grand merci Jean-Marc pour votre disponibilité, votre patience pour rebâtir ce travail de mémoire. Merci Jean-Marc pour la réalisation et merci à tous les autres, cités ou non, tous les autres, pour ces évocations souvent bouleversantes, pour nous certes, mais pour vous aussi. Non, je n'ai rien oublié, sinon peut-être d'écrire une suite, plusieurs suites, pleines de rebondissements. Mais ce que nous ne risquons pas d'oublier non plus, c'est cet hiver 54, cette insurrection de la bonté déclenchée par l'abbé Pierre et les dons. Des dons de toutes sortes qui, depuis 1954, date de création de notre communauté Emmaüs du Plessis-Trévise et la première communauté de femmes, alimentent par leur flux incessant la vie de la communauté. C'est ce flux et la qualité de ces dons remis en vente qui donne à chacune et à chacun des compagnes et des compagnons la possibilité de rebondir. Nouvelle vie des objets donnés, vendus en l'état ou recyclés. Tout cela pour une vie meilleure, une meilleure vie, celle de la communauté, la nôtre, et la boucle est bouclée. Grâce à ces dons aussi, des personnes dans la précarité, ici ou ailleurs, peuvent et pourront aussi trouver une réponse à leurs besoins de première nécessité, pour commencer ou recommencer, seconde vie. Et puis si, on allait oublier. Un grand merci pour votre présence et votre attention, si nécessaire, si amicale. Merci.